Rencontre littéraire. La carrière de Jaroslav Chedivy a été longue et riche. Né en 1929, il travaille d'abord dans des instituts de recherche. Après l'invasion soviétique en 1968, il est emprisonné pendant 6 mois et puis chassé de la vie publique. Après la chute du régime totalitaire, il est nommé en 1990 ambassadeur à Paris, ce qui est le début d'une brillante carrière diplomatique qui le propulsera jusqu'au poste de ministre des Affaires étrangères. Fort de ses expériences, il a publié plusieurs livres sur l'histoire moderne et ancienne, dont « Osudné spojenectví, une alliance fatale, Prague et Moscou, 1920 à 1948 », sorti récemment aux éditions Mladá Fronta. Voici la seconde partie de l'entretien sur ce livre que Jaroslav Chedivy a accordé à Radio Prague. Passons maintenant à l'année fatale 1938. Après la signature des accords de Munich qui ont livré pratiquement la Tchécoslovaquie à Hitler, on a beaucoup discuté le rôle de l'Union soviétique et cette discussion continue encore. L'Union soviétique voulait-elle ou pouvait-elle intervenir en faveur de la Tchécoslovaquie?
La réponse est relativement simple. L'Union soviétique proclamait 2 fois qu'elle est prête de venir aider à l'armée tchécoslovaque si elle va commencer la bataille de défense contre l'attaque de l'armée allemande. Mais Moscou a toujours souligné la deuxième condition pour cette activité soviétique, c'est-à-dire si les Français vont remplir leurs devoirs d'après le traité d'assistance mutuelle et viendront du côté de l'Ouest à l'aide pour la Tchécoslovaquie, ce que les Français refusaient. Et à votre question, pouvait-elle Moscou intervenir en faveur de la Tchécoslovaquie en 1938 toute seule? La réponse, bien sûr théorique, est non. Par quelle voie? À travers la Pologne? Impossible. Ça serait un nouveau conflit. L'aviation à travers la Roumanie? Impossible. Le roi Karol s'est refusé. Alors,
pendant la guerre, la Tchécoslovaquie occupée a été représentée par un gouvernement exilé à Londres. À cette époque, le président Beneš a signé un traité d'alliance avec l'Union soviétique. Vous expliquez ces motifs dans votre livre. Pourquoi a-t-il signé ce document?
Le président Beneš, dans sa politique en exil à Londres, avait 2 buts principaux. Premièrement, annuler des accords de Munich, ce que, en principe, le gouvernement britannique en 1942 et français en 1944 ont fait, ont signé. Et deuxièmement, il voulait préparer la position internationale de son pays après la guerre. Et il a bien compris que le rôle de l'Union soviétique en Europe de l'Est sera dominant après la guerre. Beneš surestimait la signification des accords diplomatiques. Et par cette voie, c'est-à-dire la négociation diplomatique, il voulait désigner d'avance les contours des futures relations tchéco-soviétiques. Mais, en même temps, Staline pensait déjà à la création du bloc soviétique en Europe après la guerre. Beneš a proposé de signer un traité d'alliance avec Moscou, ce qui se passait au mois de décembre 1943. L'article 4 contenait l'obligation de ne pas se mêler dans les affaires internes des partenaires. Pour Beneš, cette obligation était principale. Staline il voyait dans ce traité le départ pour former le bloc soviétique après la guerre. D'abord par le réseau des accords semblables avec d'autres pays futurs socialistes et aussi entre ces pays ensemble. Mais il faut ici ajouter une remarque. Staline pouvait suivre une telle politique en Europe de l'Est parce que ses partenaires, pendant la conférence à Yalta en février 1948, c'est-à-dire Churchill et Roosevelt, sont pratiquement arrivés à la reconnaissance du rôle Staline là-bas. C'était l'armée soviétique qui a libéré une grande partie de ce territoire, y compris la Tchécoslovaquie. Et Staline savait très bien exploiter cette préférence.
Vous démontrez dans votre livre les conséquences des conférences tenues vers la fin de la guerre à Téhéran et à Yalta pour l'influence soviétique sur la politique tchécoslovaque. À partir de quel moment l'Union soviétique a commencé à considérer la Tchécoslovaquie comme faisant partie de sa sphère d'influence? Dans quelle mesure c'était dû au fait que l'armée soviétique a libéré en 1945 une grande partie du territoire tchèque?
Ah bon, alors en ce qui concerne Yalta, je viens de parler déjà. Écoutez, je vous dirai un détail très intéressant pour expliquer tout ça. Au début des années 50, le premier secrétaire du Parti communiste hongrois, Rákosi, a mentionné dans un séminaire communiste un épisode. Dans l'année 1943, à Moscou, Staline invitait le premier secrétaire du Parti communiste de quelques pays centra-européens qui étaient pendant la guerre en exil à Moscou. Parmi ces invités était aussi le président du Parti communiste tchécoslovaque Klement Gottwald. Pendant cette rencontre, Staline a expliqué que ces pays seront libérés par l'armée soviétique, bien sûr. Mais, d'après lui, il ne serait pas raisonnable tout de suite former le gouvernement communiste là-bas, mais négocier le nouveau gouvernement sur la base de la Front nationale ou de la Front populaire. Ce gouvernement doit être amical vers Moscou et il croyait que dans un jeu politique, les communistes vont triompher. Nous connaissons très bien le cas de Prague. Khrushchev, dans ses mémoires, dit que la Tchécoslovaquie était pour Staline le plus important point dans ses imaginations de la future bloc soviétique, pour des raisons économiques, politiques et surtout militaires.
Comment s'est manifestée cette influence soviétique dans la vie politique et économique de la Tchécoslovaquie après la guerre?
Vous savez, Moscou était très attentif en ce qui concerne l'évolution dans notre pays. Mais Gottwald, il était à cette époque déjà président du gouvernement tchécoslovaque, il était relativement libre dans son gouvernement. Staline, quand même, dans deux cas, a usé de contraintes envers le gouvernement tchécoslovaque. Le 5 juin 1947, le ministre américain Marshall a présenté le plan américain comment aider, surtout économiquement, à l'Europe. À Prague, le gouvernement a déclaré d'abord sa participation à la réalisation de ce plan. Et en même temps, dans ce jour-là, les négociations concernant éventuel traité d'amitié avec la France était déjà avant la signature de ce traité. En ce moment, le 9 juillet 1947, une délégation du gouvernement tchèque avec Gottwald et encore avec le ministre des Affaires étrangères Jan Masaryk ont été accueillis par Staline à Moscou, qui leur a dit, dans ces deux questions, non. Non au plan Marshall, non au traité d'amitié ou de coopération avec la France. Jan Masaryk, après l'arrivée à Prague, c'était le 10 juillet, a déclaré « À Moscou, je suis allé en tant que ministre des Affaires étrangères. Maintenant, je suis rentré en tant que le serviteur de Staline. »